Moi, j'ai commencé un peu avec un constat, c'est que Poitiers, c'est un peu quelque chose qui est paradoxal. Tout le monde connaît la bataille de Poitiers, pour pratiquement tout le monde. Tout le monde sait à peu près la date, et tout le monde peut dire Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Mais pourtant, il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, quand les programmes ont changé, et qu'on a sacrifié pas mal de choses, dont la bataille de Poitiers, mais pas que, on a beaucoup mis Poitiers en avant. Ce qui est assez surprenant pour une bataille dont on ne parlait pas tant de ça avant, en fait. D'ailleurs, là, vous voyez une couverture de valeur actuelle. Donc, c'est un temps politique qui a mis Poitiers en avant. Hein. C'est la droite dure et l'extrême droite. Je tiens à préciser que c'est un temps politique pour lequel j'ai moi-même peu d'affection, mais c'est pas pour ça que j'en parle. C'est vraiment parce que ça a pris un certain écho. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que même valeur actuelle, sur leur couverture, il n'y est jamais marqué Charles Martel ou Poitiers. Les héros qu'on massacre, c'est Clovis, Saint-Louis, Louis XIV, Napoléon. Mais l'illustration, c'est Charles Martel et Poitiers. Mais on ne le met pas.
Bon.
Et donc il y a quelque chose d'assez paradoxal, d'assez contradictoire. Et c'est ça qui, moi, m'a intéressé à vraiment essayer de comprendre pourquoi on avait élevé Poitiers au rang de mythe. Est-ce que ça a un sens, historiquement? Ça, on le verra aussi. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mythe, en fait? Alors, c'est un peu le même point de départ que sont partis William Blanc et Caspar Snowdin, pour faire passer le livre après. C'est le meilleur livre sur le sujet, honnêtement, c'est un peu le seul en fait. C'est vraiment la mémoire de Poitiers. Alors, ça ne parle pas beaucoup de Poitiers lui-même, ça parle vraiment de ce qui s'est passé après, comment on l'a relevé. Donc, j'en parlerai pas que de ça, et il y aura d'autres choses. Et si vous êtes un peu en moins d'illustration, il y a énormément d'illustrations assez marrantes pour certaines, à partir de la page 92. Donc, voilà. Si vous voulez prendre des références, voilà. Ce livre-là, bon, je l'ai en un seul exemplaire, mais il est prêtable. Je l'ai lu, je l'ai relu, donc je ne suis pas à Charlie de Poitiers au point de le relire encore une fois. Voilà. Donc pour ça, je vais commencer par essayer de vraiment m'intéresser à la mémoire de Poitiers. Je trouvais plus intéressant de commencer par parler de comment on s'en souvenait avant de parler de la réalité. Simplement pour un peu voir les choses en étant pas trop biaisé. Parce que aujourd'hui, on reconstruit Poitiers, mais c'est relativement récent dans l'histoire. L'histoire elle-même, en tant que discipline des sciences sociales, elle a pas 300 ans. Donc c'est plutôt intéressant de voir comment on a formé une mémoire avant de voir comment on a reconstruit l'événement lui-même. Donc, quand même, après, je vais quand même parler de l'événement historique vu par les historiens. C'est quand même ça mon domaine à moi. Hein. J'avoue que c'est là-dessus que je peux mieux parler. Et enfin, je reviendrai après sur certaines critiques actuellement tenues par l'étonnant sur le travail d'historien et sur les nouveaux programmes. Pourquoi, d'après moi, ces critiques-là sont pas valables. Voilà. Donc, pour commencer, alors j'ai coupé de manière chronologique, de manière totalement arbitraire, hein, comme toutes les bandes chronologiques d'ailleurs, hein, c'est arbitraire en histoire. Voilà, donc j'ai commencé par couper avant 1850, tout simplement parce que c'est un peu le moment où la mémoire et pas si vivace. Donc, en 1850, on a d'abord dans le monde arabe, c'est intéressant, c'est un bloc de temps, on n'en parle jamais, on a en fait essentiellement deux utilisations qui sont faites de la bataille de Poitiers. D'un côté, on a les Omeyyades. Alors, les Omeyyades, pour remettre, c'est les gens qui sont califes de l'Empire arabe au moment de Poitiers. Et en 750, donc 18 ans après Poitiers, ils sont détrônés et tous massacrés, sauf un, qui va s'enfuir en Espagne, où il va être proclamé émir. Donc, et quelques années plus tard, descendant, en fait en 929, donc un peu moins de deux siècles plus tard, vont revendiquer le califat en tant que descendant de calife, et parce qu'à ce moment-là, le califat abbasside est en faiblesse. Et à ce moment-là, eux, ils vont utiliser Poitiers, de parmi leurs nombreuses propagandes, hein, c'est qu'un élément de la propagande, pour expliquer que, à l'époque, on essayait de conquérir les nouveaux territoires infidèles. Alors qu'à ce moment-là, les Abbasides, ils ne s'étendent plus. Donc, c'est un rappel, à partir de Kikassa, nous, on était des bons califes. Nous, on étendait l'islam. Alors que les Abbasides ne le font pas. Dans le même temps, on va aussi jouer sur une confusion. Parce que le premier fondateur de l'Émirat de Cordoue, le fondateur de nouvelle dynastie, il s'appelait Abderrahman, comme l'émir qui est mort à Poitiers. Donc, vu que c'est à peu près la même période, on ne sait pas trop, et qu'à l'époque, les noms de famille, on ne les marque pas toujours, et qu'ils ont eu à peu près le même poste à un moment, à peu près la même position, ben, on joue la confusion de notre ancêtre, qui est un martyr de la foi, un peu. Bon. L'autre utilisation qui est faite au Moyen Âge au monde arabe, c'est par Ibn Khaldoun. Donc, sur le monde arabe, je reprends non pas le travail de William Blanc et Catherine Dodin, mais celui de Gabriel Martinez Gros, qui est un biographe de Ibn Khaldoun. Là, vous voyez sa statue à Tunis. Donc, c'est un penseur très important du monde arabe médiéval, et c'est quelqu'un qui est notamment auteur d'une théorie de l'histoire. Donc, d'après lui, en fait, le moteur de l'histoire, c'est les tribus bédouines qui sont pauvres mais ont la force militaire et qui, du coup, vont mener des conquêtes, vont en faire, mais en faisant ça, vont s'enrichir, vont d'abord sédentaires, voire même s'urbaniser, et vont transmettre leur force militaire à d'autres tribus, en fait. Donc là, on passe à. Et d'après lui, Poitiers, c'est un symptôme de ça. C'est le moment où les Arabes commencent à ne plus avoir d'intérêt à attaquer, donc ils commencent à ne plus s'étendre. Ils commencent à perdre leur bataille, ils commencent à transférer leur force militaire. Alors, en Occident, c'est aux Berbères, et à l'Est, c'est aux Turcs. Donc, bon, il y a plein de trucs à faire ça, mais pour l'époque, c'est une lecture qui est plutôt intéressante. Hein. On est largement avant l'histoire en tant que science. Donc, pour mettre ça dans le contexte. Alors, en Occident et en France, qu'est-ce qu'on en pense de Poitiers? C'est un peu compliqué. On en parle du Grand Unique de France, mais très peu. Ça veut dire que ce que vous avez retenu, en 732, Charles Martel a révélé les Arabes à Poitiers, c'est à peu près déjà ce qu'on a retenu du Grand Unique de France, en fait. Et on en parle comme un épisode un peu obligatoire, mais en même temps, on ne parle pas beaucoup plus. Il y a quelques illustrations, quelques enluminures, mais pas tant que ça. Et celle qu'on a, en fait, est souvent plus un goût de l'artiste qui a eu envie de représenter le roi de France, même si Charles Martel n'était pas le roi de France, hein, mais à l'époque, on se soucie pas trop de ce genre de détails. Qui a eu envie de représenter la France, on a envie de taper sur des musulmans. D'un point de vue propagande artistique, c'est intéressant. Mais dans le texte lui-même, ça prend jamais beaucoup de place, en fait. Et au contraire, au Moyen-Âge, on a deux mythes qui vont coexister de Charles Martel, qui sont beaucoup moins favorables. D'abord, on a le mythe de Charles Martel aux enfers. Ce qui est embêtant pour ça, chrétienté, quand même. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, Charles Martel a spolié les biens de l'Église pour donner à ses fidèles. Charles Martel, il a dû s'imposer à la tête du royaume franc. Il n'était pas dès le départ, il a eu des ennemis. Donc il a fait ça, ce que tout le monde faisait à l'époque, ce qui était vu comme normal, donner des biens de l'Église à des laïcs parce qu'ils avaient rendu service, c'était totalement admis. Et bien, le 9e siècle, donc le siècle d'après, l'Église va commencer à dire que non, c'est pas normal. Les biens de l'Église, ça doit être à l'Église, et pas des laïcs. Et à ce moment-là, ils vont commencer à faire une critique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas critiquer directement le roi et l'empereur qui font ça directement. C'est eux les chefs. C'est embêtant. En même temps, on ne peut pas critiquer des gens lointains ou autres, parce que ça ne toucherait pas. Donc on crée cette idée, ce mythe, parce que c'est le dernier de la dynastie qui règne à ne pas avoir été roi. On ne critique pas la royauté comme ça. On critique un ancêtre lointain qui a mal agi. Et ça va coexister pendant tout le Moyen-Âge, Charles Martel aux enfers. Et l'autre mythe qu'on a, c'est Charles Martel en tant que tyran. Et là, pareil, c'est pas vraiment une contre-critique, en fait. C'est par exemple dans l'entourage du duc de Bourgogne. Parce qu'en fait, à l'époque, le roi de France s'appelle Charles VII. Et on est en guerre contre lui. Donc Charles Martel, Charles VII, c'est les tyrans. Voilà. Mais tout de même, il n'a pas une image si positive que ça au Moyen-Âge, Charles Martel. Et il y a même des fois, dans la vie, de l'oublier un peu. Alors, il va y avoir quand même deux personnages qu'on va comparer à Charles Martel, un personnage assez important historiquement, donc Henri IV et Napoléon Bonaparte. En fait, c'est parce que, comme Charles Martel, d'après la propagande, ils fondent en dynastie, ils rajeunissent une monarchie qui était en perte de vitesse, qui n'était plus capable de se défendre, qui avait mal agi, donc Henri IV qui prend possession des Valois et Napoléon prend possession des Bourbons. Et ça justifie le fait qu'ils aient pris le pouvoir les deux par la force. Un coup d'État pour Henri IV, une guerre pour Henri IV, un coup d'État pour Napoléon. Le truc, c'est qu'eux-mêmes vont vite rejeter cette propagande. Pour Henri IV, ils préfèrent rappeler qu'ils sont de Saint-Louis. Donc il n'a pas fondé une nouvelle dynastie. Il est le roi légitime. Et puis, utiliser l'idée de nouvelle dynastie et d'un pouvoir par la force, c'est sympa, mais son adversaire, le duc de Guise, qui est mort à ce moment-là, mais il l'avait fait aussi. Et lui, il se présente des troupes de Charlemagne. Donc, c'est pas bon de rappeler qu'on peut prendre le pouvoir par la force si la dynastie est fatiguée. Parce que c'est lui le roi légitime. Et pour Napoléon, c'est un peu pareil. Il a pris le pouvoir par la force, mais il préfère rappeler qu'il l'a pris avec l'adhésion du peuple. C'est plus valorisant. Les deux préfèrent rappeler qu'ils sont des agents de paix, pas de guerre. Et donc, rapidement, on va rejeter l'image de Jean Martel. C'est vraiment un truc qui va à peine exister. Et Napoléon, ça va même être une des causes de sa dispute avec son frère Lucien, qui est celui qui avait proposé cette comparaison. Donc, encore une fois, Jean Martel, on l'utilise, mais généralement, on n'a pas une image si bien que ça. Et ça se confirme après, parce qu'en fait, dans les nombreuses critiques qu'on fait au moment de la Lumière et de la Révolution, donc à l'époque de Napoléon, il y a une critique sur l'obscurantisme chrétien médiéval. Alors, qui a relativisé, hein, qui n'est pas entièrement vrai, mais non, mais c'est quand même ce qu'on lit, c'est le discours qu'on a. Et on va le comparer à un islam fantasmé. Un islam qui a un monde, une Andalousie qui serait rayonnante, extrêmement. Là encore, c'est relativisé. En fait, les deux ne sont pas si différents, ça. Il faut vraiment voir, et de toute façon, on ne peut pas faire une généralité, le monde arabe et le monde chrétien pendant 1000 ans. Ça n'a aucun sens. Mais on va avoir ce discours-là, et ça va notamment être utilisé par Mehmet Ali, donc, qui est un vice-roi d'Égypte, qui essaye de capter l'héritage des Lumières, en fait. Qui essaye de faire de moderniser le pays, de s'émanciper de l'Empire ottoman, et qui est dans un lieu de projet comme ça, et qui va écrire à un moment un test en invitant les Européens, c'est-à-dire les Européens, à maudire Charles Martel. Parce que l'arrêt de Poitiers, lui, le lit comme étant l'arrêt de la culture, de la civilisation représentée par l'islam, par l'obscurantisme chrétien de Charles Martel. Donc, nous avons une lecture un peu plus symbolique de Poitiers à ce moment-là, mais elle n'est pas à l'avantage de Charles Martel. Il faut savoir que c'est très répandu. Et au 19e et un peu plus au début du 20e siècle, on a une image fantasmée d'un islam qui existe, qui est un peu équivalente à celle du bouddhisme aujourd'hui, en fait. C'est l'autre religion dont on va se comparer, qui est exotique, et en fait, on met tout ce qu'on veut dedans, et on ne l'a pas vraiment étudié, la religion, en réalité. C'est, bon, c'est un fantasme, l'islam. Alors, ça ne va pas plaire à quelqu'un qui est Chateaubriand. Vous savez, c'est l'auteur du génie du christianisme. Et lui, du tout, voir le christianisme comme étant l'obscurantisme et l'islam comme étant la culture, ça ne lui plaît pas trop. Et il a commencé à utiliser lui aussi Poitiers pour répondre à ça. D'abord, pour répondre à l'attaque qu'on fait sur les croisades. On le voit à l'époque, on ne comprend plus pourquoi on fait les croisades. On se dit, mais qu'est-ce qu'on est allé faire traverser la mer pour embêter des gens qui ne nous avaient rien demandé, tout ça au nom de la religion, ça n'a aucun sens. On lui, ne comprend pas non plus. Mais il a essayé de justifier ça en disant que, en vrai, on a fait ça pour se venger de Poitiers, se défendre. Alors, on s'est quand même vengé 300 ans plus tard. Je mets de la vengeance dans un palissement, je crois, mais là, il était congelé. Et en plus, quand on voit les tests sur la croisade, c'est jamais fait référence à Poitiers. On fait éventuellement référence plus tard à Roncevaux, mais ça n'a rien à voir, et on fait jamais référence à Poitiers. Et il n'y avait plus d'attaque depuis des siècles. C'est vraiment pas ça, le sujet. Mais il va justifier ça comme ça. Et il va commencer à développer tout un discours sur Poitiers à son tour, où lui explique qu'en fait, à Poitiers, c'est pas la civilisation et la barbarie qui sont affrontées, c'est la liberté et le despotisme. La liberté étant bien sûr le christianisme, qui se débat, hein, mais voilà, et le despotisme étant l'islam. Et il va commencer à lire ça comme étant une lutte, étant le génie christianisme, étant vraiment, voilà, toutes ces luttes que les gens ne comprennent plus aujourd'hui, ils ne comprennent pas qu'on s'est battu pour leur liberté. Pour leur liberté sous la monarchie chrétienne. Hein, bon. Voilà. Et donc ça, c'est joli, ça, c'est le 19e siècle. Avant de passer à après, à partir de 1850, il y a un autre vecteur qui va beaucoup faire connaître Poitiers aux gens, parce que ça, c'est des milieux lettrés, quand même. Tout le monde ne vit pas du Chateaubriand en 1800 et quelques. Par contre, il va commencer à avoir les choses, c'est l'instruction qui va se développer, qui va devenir, à fin du 19e siècle, obligatoire, et là on va avoir les manuels scolaires qui vont se développer. Et donc beaucoup d'enfants vont lire sur la bataille de Poitiers. C'est ce moment-là que les Français le connaissent en fait. En réalité, tout ce que je vous ai donné avant, 99% de la France n'avait pas lu. Sur le Martel, on ne sait pas qui c'était. Et on pourrait croire du coup qu'il est très présent. Mais en fait, même dans les tests où il est très présent, on n'en dit pas grand-chose. C'est-à-dire que vous allez avoir un discours, on va dire, de gauche qui va expliquer que c'est le peuple franc, c'est le peuple qui a rejeté les Arabes, vous allez avoir un discours un peu plus à droite qui va dire que Charles Martel a sauvé la France, et vous allez avoir un discours de l'Action française et des choses comme ça, donc l'extrême droite, qui va dire que Charles Martel a sauvé la chrétienté et l'Europe. Mais même là, on n'en écrit jamais grand-chose. Et William et Joseph Naudin ont notamment fait une étude sur plusieurs manuels, c'est une étude réduite, mais j'ai pu un peu la vérifier avec d'autres manuels moi-même, et sur les manuels qu'ils ont relevés, en tout, Charles Martel a 8 pages et quelques. Jeanne d'Arc en a 27. Et Charles Martel passe après Roncevaux, après Vincent de Torix, et après Louis XI. Plus personne ne se rappelle de Louis XI. On a personne dans le tour et ça ne choque personne. Mais, voilà. Donc en fait, on n'y était pas grand-chose. Alors, une autre utilisation de Poitiers qui est plus proche de celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est celle-là. je vous laisse quand même un peu admirer cette couverture qui est magnifique de M. Donc, alors les différents symboles ensemble n'ont pas beaucoup de sens. Hein, c'est voilà. Alors, la France juive, on pourrait penser que ça ne parle pas de Poitiers, parce que le rapport entre la France juive et Poitiers, de base, il n'est pas évident. En fait, M. Drumont, qui est extrêmement antisémite, pour lui, la partie du complot juif qui veut dominer le monde, il est un peu large. C'est-à-dire qu'il va revenir sur le Carthaginois, quand même. Carthaginois, c'est le fauné de ce monde sémite qui veut envahir le monde européen, et il a été vaincu par les Romains. Et dans cette lecture-là, bah, il va lire les Carthaginois, après il y a les Arabes avec Poitiers, et Charles Martel, qui est un autre héros, qui va arrêter cette destructrice, voilà, c'est tout le monde. Hein. Et maintenant, bah, ce qui reste de ces conquérants arabes, ces conquérants carthaginois, c'est le juif faux qui s'immisce partout. Bon, voilà. Donc on est en plein dans le fantasme antisémite. Mais c'est une première chose qui arrive, c'est une lecture raciste de l'événement, ce qui n'avait pas lieu avant. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette lecture raciste va être reprise par l'extrême droite, mais pas comme Drumont aurait voulu. En fait, à partir de l'entre-deux-guerres surtout, on va commencer à avoir des tests qui utilisent Poitiers pour justifier le fait que les Arabes sont bienvenus en France. Je vous explique, à l'époque, il faut penser que la peur qu'on a, c'est pas l'islam. Et les musulmans vivent l'islam, ont le fantasme, et les Arabes, on n'en a pas peur, on les a colonisés. Ils sont vaincus, c'est tranquille. Non, on a peur des juifs et des communistes. Et l'autre grand foyer d'immigration qu'il y a, c'est l'Italie et l'Espagne. En Italie et en Espagne, le Parti communiste est puissant. Donc, on commence à justifier en disant qu'à Poitiers, en fait, les Arabes, on ne les a pas vraiment repoussés hors de la France. Ils sont restés, ils sont installés, il y a eu un métissage. Et donc, du coup, en fait, le mélange entre la race française et la race arabe, il est fertile, il est bien, il faut le garder. Pas tant avec les Italiens et les Espagnols. Et pas tant avec les Juifs, bien sûr, aussi. Et on utilise donc le discours pour dire ça. On va même commencer à fonder un mythe en disant que les Touaregs sont les descendants des chevaliers de Saint-Louis. Ils sont restés dans le coin et ils sont devenus Touaregs parce qu'on a envie et qu'on est que voilà. Hein, de toute façon, c'est pas pour ça qu'on n'a pas vraiment besoin de s'embarrasser de la réalité. Hein. Et on va commencer à avoir ce discours-là. On est sûr que l'Arabe, il n'est pas juif. Bon, enfin, on n'est pas sûr, mais eux, ils en sont sûrs. On est sûr que l'Arabe, il n'est pas féministe, vu qu'il est musulman. C'est un peu raciste, hein, ils le sont carrément, mais pour lui, du coup, pour eux, c'est ça. Et puis, l'Arabe, c'est pas vraiment un immigré, c'est un colonisé. Donc, en vrai, s'il passe d'Algérie ou Tunisie en France, par exemple, ben, on n'a pas de Français en plus ou en moins, c'est les mêmes. Et il y a même un discours qui va dire, faites venir un Arabe en France, c'est éviter de les immigrer. Voilà. Donc voilà, Poitiers utilisé pour soutenir l'immigration arabe, je pensais pas tomber là-dessus quand même, c'est assez intéressant. Et ça va faire, c'est ce fait que l'ennemi soit communiste mais juif et pas l'arabe, l'ennemi commun de l'extrême droite, et que Jeanne d'Arc soit l'héroïne d'Emmanuel Stoller, ça va faire que quand le FN va se fonder, on parlera pas de Martel, on parlera de Jeanne d'Arc. Et à l'époque, Jeanne d'Arc, tout le monde se l'arrache, il y a même un livre qui prétend que Jeanne d'Arc était communiste, écrite par une militante du PCF. Un jour, j'essaierai de lire ce livre parce que je ne comprends pas le principe. Mais... voilà.
Alors, en fait, peut-être même l'université d'automne, on va faire un dark.
C'est ça. Qui continue à s'ignorer, je pense. Mais... voilà. Et après 1990, ça change un peu le discours sur Poitiers, quand même. Hein, et ça a un peu fait le devant de la scène. Alors, je ne vous ai pas remis l'illustration de l'heure actuelle, mais ça rentre un peu là-dedans. En fait, comment ça se passe? Enfin, déjà, après 1990, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il n'y a plus l'URSS. Donc, le communiste, c'est plus peur. Il faut trouver un nouvel ennemi commun. Et à ce moment-là, il y a deux phénomènes intéressants qui vont arriver en même temps. Une sorte de coïncidence, c'est d'abord, il y a un certain Samuel Huntington, qui va développer, un politologue américain, qui va développer une théorie qui est celle du choix des civilisations. En gros, d'après lui, il y aurait des blocs de civilisation, et le bloc communiste était une parenthèse de l'histoire, une sorte d'imbroglio, d'ailleurs, c'était un peu étonnant et qui n'était pas normal. Et dans les blocs, il y a le bloc musulman et le bloc occidental, avec les États-Unis et l'Europe dedans, hein, c'est le même bloc. Et qui sont voués à faire la guerre tout le temps, et les batailles qu'ils citent pour justifier ça, c'est Poitiers en 1732, Lépante au XVIe siècle, et le siège de Vienne sous le règne de Louis XIV, donc 18e siècle. 17e. Bon. Et depuis, après tout, rien. Hein, donc c'est des blocs quand même qui sont en guerre, mais de manière assez séparate, on y reviendra. Et le truc, c'est qu'au moment où cette théorie de Sam Eddington qui ne prône pas cette civilisation, lui. Hein. C'est Sid le prône. Lui, il prétend juste le constater. On reviendra dessus, hein, mais il y a quand même une différence. Lui, il essaye de faire œuvre de description de la réalité. Et quand ça va arriver en France, ça va être juste avant les attentats du 11 septembre 2001. Donc l'aspect, le bloc musulman nous attaque, on en a une réalité, un truc qui a l'air d'être vrai. Et depuis, ça s'est confirmé, enfin ça a l'air d'être confirmé, vu que ben, les attentats islamistes n'ont pas diminué, pas vraiment. Donc ça paraît valable, on se dit qu'on est en guerre contre un truc et que c'est comme ça, on n'a pas le choix. Dans le même temps, l'extrême droite se divise. Et par exemple, on a un certain Maigret qui va fonder son propre parti de la guerre journaliste et qui va être le premier à célébrer Charles Martel. Parce qu'il faut trouver une autre célébration, Jeanne d'Arc s'est pris. Donc il faut trouver quelqu'un d'autre et il faut trouver quelqu'un qui choque pour montrer que nous on est des vrais, on est vraiment racistes, on est vraiment d'extrême droite. Donc on prend une figure qui était honnie, qui n'était pas très populaire. Donc on prend Charles Martel. Et ça fait qu'encore aujourd'hui, c'est le bloc identitaire qui fait 732 générations identitaires sur le ramassé de Poitiers. C'est pas le FN, c'est pas les partis qui sont en force, c'est les groupuscules qui sont dissidents au sein même de l'extrême droite. À l'heure actuelle, c'est un peu l'exception parce qu'ils ont certaines licences à apporter, mais généralement, ceux qui mettent le plus en avant Charles Martel, c'est vraiment les dissidents dans la dissidence, en fait. Voilà. Et ça va arriver au point qu'on a ce livre-là qui est sorti. Alors, je ne l'ai pas lu, je vous avoue, je n'avais pas le temps ni l'envie. Mais j'aime bien travailler sur ceux qui n'existent pas, j'ai l'impression, quand même. Entre les Qatars, le Moyen-Âge et ça, maintenant, je travaille sur ceux qui n'existent pas. C'est bon, voilà. Alors, c'est un livre qui a été édité en Liban, mais en français. Alors, je ne connais pas cet auteur, c'est juste que j'ai cherché son nom sur Internet, je suis tombé sur MetaTV en premier. MetaTV, c'était aussi là où j'ai sorti cet invité, où j'avais vous montré la vidéo. Je pense qu'ils aiment bien qu'ils n'existent pas, eux aussi. Voilà. Mais on voit quand même qu'il y a un certain malaise. C'est-à-dire que le discours est devenu tellement fort avec Poitiers, que pour contrecarrer, on ne va pas contrecarrer avec des faits, on va contrecarrer en essayant de nier l'événement lui-même. Bon, alors, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est peut-être vrai. Peut-être que vraiment, on a sauvé Poitiers. D'ailleurs, je dis Laurent Deutsch, et d'autres réalisateurs, Laurent Deutsch, dans le livre le plus vendu de France, d'histoire, cette année-là, dans Ed Zion, il explique que si Charles Martel n'avait pas gagné à Poitiers, aujourd'hui, toutes les femmes seraient voilées. Bon, à part ça, les femmes étaient voilées au Moyen-Âge en France aussi, hein, mais c'était pas obligatoire. Par contre, les femmes pas voilées, c'était plus. Mais c'était pas obligatoire. Voilà. Et d'ailleurs, on a taillé explicitement pour situer deux portées de voile. Vous voyez le truc, c'est qu'il y a une pression sociale assez importante. Mais bon, c'est toi le vrai événement. Alors, déjà, je tiens à vous avertir, on n'a pas beaucoup de sources. Déjà, c'est en 732, hein, c'est pas hier. Mais surtout, en fait, on a trois sources écrites seulement. On a les chroniques mozarabes, que vous voyez là. Il ne faut pas croire que c'est la vision des Arabes. C'est la vision des chrétiens soumis aux Arabes en Espagne. Donc, ils sont extrêmement favorable à Charles Martel et défavorable aux Arabes. Pour vous dire, il regrette que Charles Martel n'ait pas poursuivi les Arabes après pour les exterminer. Mais c'est sur ça, ça mérite son art. C'est vraiment ça qui est plus complète, elle est plus intéressante. Et il y a deux informations qu'ils oublient de donner. La date et le lieu. Donc bon, c'est la meilleure chose qu'on a et on n'a pas ça quand même. C'est assez rare. La meilleure chose qu'on a, c'est la chronique de Moissac, qui elle donne la date et le lieu. Enfin, le lieu à peu près, hein, c'est large. C'est-à-dire qu'il donne pas d'un lieu dit, mais on ne sait pas où il est, le lieu dit. Donc, il le donne, mais nous, on ne sait pas. Et c'est une source intéressante aussi, elle a juste un petit défaut, c'est qu'elle a été rédigée dans l'entourage du demi-frère de Charles Martel. Donc, c'est un ouvrage de propagande, totalement, pour appuyer la cause de droit de Charles Martel. Et pareil, on apprend quelque chose sur la société de Poitiers, mais pas grand-chose. Et on a enfin la troisième source, c'est d'Étienne Le Diacre, qui est un moine vitaille du Sud. Et Étienne Le Diacre. Et le problème, c'est que on est sûr qu'il déjà il confond la reine de Poitiers et le siège de Toulouse. Il y a quand même 12 ans entre les deux. Hein. Et les chiffres qu'il donne, c'est les chiffres donnés des armées, c'est les chiffres donnés par le pape pour le siège de Toulouse, qui sont beaucoup trop importants des armées. Et je vous le donne juste cette source-là parce qu'en fait, il n'y a que des rumeurs de Poitiers. Ce qu'on a avec une idée à faire, c'est une transcription des rumeurs qu'il y avait à l'époque sur comment ça s'est passé à Poitiers. Donc déformé, donc mélangé, parce qu'il n'a pas connu de vrais témoins de Poitiers. Et je vous donne juste parce que généralement, quand vous verrez dans un livre ou dans un article que Charles Martel a vaincu des milliers d'Arabes, c'était le diacre qui citait. Mais on sait que c'est faux. Et surtout, en fait, donc avec les sources textuelles, c'est quand même pas énorme, et surtout, on n'a pas de source archéologique, Et je vais vous dire un truc, je pense qu'on n'en aura pas. Parce qu'on ne sait pas où ça a eu lieu. On sait que c'est entre Poitiers et Tours. Les Français disent Battle of Poitiers, les anglophones disent Battle of Tours. On n'aura pas creusé partout entre Poitiers et Tours, hein. Ça va faire long. Et on n'est même pas sûr qu'il y ait vraiment des traces archéologiques à chercher, en fait. Et si on les trouvait, c'est pas sûr qu'on les identifie à la bataille. Donc au final, on n'a vraiment que les témoignages partisans et les témoignages partiels. Et pas si développé de ça, en fait. Donc, ça va, c'est difficile pour nous situer, c'est pour ça que je vais devoir nous situer de manière assez sommaire. Alors, avant de vous juste pour un peu que vous voyez mieux pour l'événement, alors voici le royaume de France, les royaumes des Francs en 714. Alors bon, c'est 714, j'ai un peu de carte vraiment plus à cette époque de Poitiers. Donc voilà, il faut penser que ici, nous on est ici, c'est sous domination musulmane. Déjà. La Septimanie, la région de Narbonne, c'est l'ancien royaume Zigo, et ça a été soumis par l'Empire arabe. Et en fait, j'ai commencé par vous dire qu'il y a trois acteurs importants pour la bataille de Poitiers. Pas deux, trois. Alors le premier, bien sûr, c'est Charles Martel. Charles Martel, il vient d'Austrasie. Donc, vous voyez ici en jaune. Il est le fils d'un du palais, il était l'héritier plus ou moins légitime. Le problème, c'est que son frère, Pépin de Verstal, il meurt quand lui est très, très, très jeune. Et donc, l'État suprématique qui a été soumise par Pépin de Verstal, elle en prenne du poil de la bête. Charles Martel, il doit se battre pour imposer son pouvoir sur la France, sur la gueule du Nord, en fait. Et du coup, il va traiter avec un certain Eudes, duc d'Aquitaine. Aquitaine, c'est le gros truc jaune que vous voyez là. Il va Gascogne aussi, mais à l'époque, c'est aussi en Aquitaine. Donc, voilà, c'est pas le petit duché. Même la nouvelle Aquitaine, c'est petit à côté. Et en gros, Eudes s'en fiche, je ne sais pas, au Nord, mais il veut juste être tranquille et faire ce qu'il veut dans son coin. Et ce qui se passe, c'est que Charles Martel va accepter parce que lui, il n'est plus pas du royaume. Et donc, mais en 732, ce qui s'est passé, c'est que Charles Martel, il a gagné en France du Nord. Il a même été, il est même en train d'évangéliser la Frise. Donc la Frise, c'est les actuels Pays-Bas. Alors évangéliser, il ne faut pas croire qu'il est en train de le convaincre de se convertir. Hein. Il y allait à coup d'épée pour être évangélisé, il est soumis. Mais après, l'évangélisation, c'est mieux que le massacre. Voilà, et il commence à en avoir un peu assez d'avoir donné l'indépendance au duc d'Aquitaine, quand même. Il aimerait bien que le duc d'Aquitaine il soumette. Dans le même temps, Eudes, il a subi des attaques de la part des territoires arabes. Il avait déjà repoussé en 720 un siège à Toulouse. Et en 732, on ne sait pas exactement pourquoi, c'était juste un but de pillage, où est-ce qu'il y avait une vengeance, parce que Eudes était allié avec un seigneur rebelle, Abderrahman, le gouverneur pour les états là pour le calife, décide d'attaquer. Il se trouve pris entre deux feux, à la fois Charles Martel et l'Empire arabe, Abderrahman. Donc il va commencer par aller à la rencontre de Charles Martel, donc à la frontière entre la Neustrie et l'Aquitaine, où il va être vaincu. Pendant ce temps-là, Abderrahman a les champs libres et il prend Bordeaux. Et si on sait que ce n'est pas une conquête, un des modalistes qu'on a, c'est que Bordeaux est prise, c'est la capitale, elle ne sera jamais reprise. Parce qu'en fait, ils ont juste pillé, ils sont partis. Ils n'ont pas fait une seule garnison au milieu. Pour une conquête, c'est assez étonnant quand même. Vous prenez la principale ville de votre ennemi et vous la laissez. Et tout, lui, il n'a plus le choix. Il s'est attaqué par le sud et par le nord en même temps. Il faut qu'il s'allie à un des deux. Il demande à Charles Martel, son vainqueur, d'intervenir en essayant de se soumettre en fait à son autorité. Donc Charles Martel va à la rencontre d'Abderrahman entre Poitiers et Tours, donc je vous l'ai dit. Alors on sait pourquoi c'est entre Poitiers et Tours. C'est parce que Tours, c'était le monastère le plus riche de la gueule à l'époque. C'est là où on a géré la cape de Saint-Martin. C'est Martin celui qui a coupé son manteau aux deux pour donner un pop.
Tu peux nous savoir Poitiers et Tours.
Poitiers, c'est là. Ouais, Tours, c'est là. Donc bon, c'est pour ça que je vous dis qu'on va pas creuser tout. On va pas chercher partout. Il fallait faire la collision entre les deux. Hein. C'est... Donc, là, déjà, quand on est sûr qu'il y a un truc à un endroit, on n'a pas toujours le budget et toujours le droit. Alors là, c'est pas pour demain. Et en fait, c'est une escarmouche Poitiers. C'est-à-dire que la cavalerie arabe attaque l'infanterie franque. Elle est repoussée, et le lendemain, elle a fui. Bon, le détail, c'est qu'entre les deux, Abderrahman est mort dans la charge. Donc en fait, il n'y a plus le chef, ils ont pillé, ils sont enrichis, pour qu'ils resteraient, ils ne vont pas se faire tous tuer pour de l'argent, ils l'ont. Alors tant pis pour Tours, ils partent. Donc eux, pour eux, c'est pas un échec, sauf pour Abderrahman qui est mort, lui, c'est un peu un échec. Le vrai perdant, à part Abderrahman du tout, c'est Eudes, qui lui, est plus indépendant. Il a reçu de l'Aquitaine, hein. Mais là, l'Aquitaine, qui était en train de prendre son indépendance, elle le perd pendant plusieurs années. Puis elle va réessayer, enfin, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'Aquitaine. L'autre jour, c'est Caroline, je pense qu'elle peut se révolter, elle se révolte. Donc, ça, c'est ce que je peux dire. Alors, c'est quoi les conséquences de Poitiers, à part la mort d'Abderrahmane, finalement? Enfin, déjà, ce qu'on peut dire de sûr, c'est que, malgré tout, Charles Martel récupère une partie du trésor qu'ils n'ont pas pu tout prendre avec eux, donc ça renfloue un peu les caisses. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que Eudes est soumis. Il a perdu la bataille, mais c'est plutôt la bataille d'avant qu'il a perdu contre Charles Martel, que cette bataille-là, finalement. Mais bon, malgré tout, il y a un renforcement. En plus, Charles Martel va commencer à pouvoir se présenter dans la propagande comme le défenseur de la chrétienté, ce qui renforce son aura, et donc qui l'aide à pouvoir asseoir son pouvoir, en fait, simplement. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que Abderrahmane ayant dû batailler contre les seigneurs rebelles pour imposer son autorité, il est mort, il va avancer seul, il va peut-être falloir qu'il bataille lui aussi. Mais c'est tout. C'est tout. Après, il y a des débats un peu plus pour savoir est-ce que Poitiers, c'est une simple escarmouche qui a juste mis fin à un pillage. Ce qui est là, c'est sympa, hein, mais historiquement, à long terme, on s'en moque un peu. Ou est-ce que, c'est ce qu'on se dit après Martinez Gros, ça pouvait être aussi être un test. Parce qu'il faut savoir que je vous dis que c'était seulement un pillage, mais ça a commencé comme ça à l'enquête de l'Espagne aussi. Ils commencent à pillager parce que le royaume Zidou était en crise. Et donc, bah, ils ont pillé, ils ont pris toutes les villes, et bah, au bout d'un moment, ils ont gardé, quoi. Voilà. Mais à la base, c'était pas tout prévu. Mais donc ça, c'est le débat. Moi, je suis plutôt pour dire que c'est une simple escarmouche, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de tentatives. Il y en a d'autres qui ont mieux réussi dans notre endroit, et ça n'a pas donné de suite. Gabriel Martinez Doro, lui, pense que c'était un coup de semonce, que peut-être une autre attaque plus tard, mais plus tard. Et malgré tout, le royaume Zidou était vraiment en train de s'effondrer, ce n'était pas le cas du royaume des Francs. Donc, les situations n'étaient pas comparables. Et donc, c'est pas l'événement du déclencheur. Enfin, l'événement, c'est plutôt un symptôme, même pour le royaume Martinez Doro. Alors, après, moi, ce que je vous propose, juste pour un peu parler sur les compétences de Poitiers, c'est qu'on descende un peu le regard. Parce que ça, je vous ai parlé de ce territoire-là. Mais pour les Arabes, ça n'a pas de sens, ce territoire-là. Ils s'en moquent. Eux, c'est ça leur territoire. C'est un poil plus grand. Et ce qu'on voit, en fait, en regardant là, c'est que, ben, à ce moment-là, ils arrivent à s'étendre de partout. C'est Poitiers, ça s'est fait en 732, sauf qu'en même temps, les tentatives de pillage de Constantinople et de Constantinople échouent, ils sont repoussés par l'Empire byzantin. En 731, ensuite plus tard, ils sont repoussés par l'Empire chinois aussi. Donc, ils sont repoussés de partout, en fait. C'est un arrêt de l'invasion. Et en fait, on l'explique assez bien, sans avoir besoin de parler d'événements incroyables, par le fait que les conquêtes arabes, ça a l'air d'être une espèce de force incroyable, on la voit comme ça, en un siècle, ils ont conquis un territoire immense. Mais ils ont eu de la chance, en fait. Pour le coup, conquérant. Hein. Ils ont eu de la chance parce que, à l'époque, l'Empire perse qui soumette, il est en train de s'effondrer. L'Empire byzantin, il est en guerre civile, il divise, donc il n'y a pas de réponse. Et après, ils soumettent l'Afrique du Nord qui était totalement abandonnée à des petites tribus, en fait. Et après, ils arrivent dans l'Espagne islamique qui était elle-même en crise. Donc en fait, là, ils arrivent sur des territoires qui, eux, sont solides. L'Empire byzantin, il s'est renforcé derrière l'empereur, qui a le soutien de l'armée, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Le soutien de l'armée, c'est comme aidant pour résister à une invasion. Et les autres territoires, c'est pareil. Et on s'attend à eux aussi. On sait qu'ils viennent. On sait qu'ils sont là, ils sont puissants quand on se prépare. Donc en fait, c'est pas si étonnant de ça. En plus, dans le même temps, l'Empire arabe, il y a peut-être moins intérêt à s'étendre. C'est ce que disait Ibn Khaldoun, hein. Mais ils sont riches, l'Empire arabe. Les chefs sont riches. Pourquoi on irait conquérir et risquer de mourir pour des territoires, ce qu'a fait Abderrahmane, alors qu'on peut prendre l'impôt? C'est quand même plus tranquille, l'impôt. Pour tuer des paysans, c'est quand même beaucoup plus simple. Si jamais ils se révoltent. Donc, il n'y a pas cette envie-là. Et d'ailleurs, ça fait un autre truc, c'est que ça entraîne des divisions dans l'Empire. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que juste après Poitiers, il y a une révolte des Berbères en Espagne. Qui était la force de frappe en Espagne de l'Empire arabe. Et pourquoi ils se révoltent? Parce que les Arabes les oppriment sur l'impôt. Justement pour s'enrichir plus. Donc au final, Poitiers, c'est un symptôme, c'est un des cas où il s'arrête, c'est pas si étonnant que ça. Même si on prend le cas de Gabriel Machado, je lui-même reconnais, c'est un symptôme intéressant pour étudier des choses, mais c'est pas le coup d'arrêt. Charles Martel, il a pas sauvé l'Europe. Éventuellement, il a peut-être sauvé l'Aquitaine. C'est pas mal. Mais l'Europe, c'est un peu exagéré. Et juste pour revenir rapidement sur le truc de Laurent Deutsch, comme toi, sans ça, les femmes de France portaient tout le voile, je vous rappelle qu'il y a un pays européen qui a été soumis à ce moment-là par les Arabes et qui est resté arabe et musulman pendant plusieurs siècles. On appelle ça l'Espagne et le Portugal. Ils ne sont pas des masses, ils sont pas des masses musulmans aujourd'hui. Parce que l'histoire est possible, et imaginez ce qui serait arrivé, c'est intéressant, mais il faut être prudent. Déjà, un siècle, c'est long. 1300 ans, c'est quand même un petit peu exagéré pour évaluer les conséquences d'une bataille. aussi importante soit-elle. Donc, juste pour dire, il y a passé plein de choses en 1300 ans. Voilà. Bon, mais l'étonnant, ça leur va pas. Eux, ils trouvent qu'on prend pas en compte certaines choses. Et par exemple, ils expliquent que, malgré tout, on prend pas en compte que c'était un choix de civilisation Poitiers. C'était important, c'était pas une choix de civilisation de Huntington, hein, je vous rappelle. Et moi, juste, je veux bien que ce soit un choc entre deux civilisations, deux cultures, si vous voulez. Mais parler de choix de civilisation, ça me dérange. Déjà parce que, faut quand même vraiment s'étonner parmi les événements. Vous avez Poitiers en 732 et les plantes, 800 ans plus tard. Il s'est passé quoi entre les deux? Ils avaient oublié où était la civilisation adverse Non, en fait, qu'est-ce que Huntington, il sélectionne des cas où les forces musulmanes attaquent les forces chrétiennes et perdent. C'est quand même deux conditions qui sont assez rares, en fait. Je veux dire, pendant ce temps-là, il n'y a pas de paix aussi longue. Il y a des paix, hein, pendant cette période, entre la France et l'Angleterre, par exemple. Pourtant, je ne pense pas qu'on parle de choix de civilisation entre la France et l'Angleterre. On pourrait, hein. Il va falloir justifier. Même dans ces événements-là, il faut sélectionner de manière drastique parce que c'est pas les musulmans contre les chrétiens à Poitiers. Je vous l'ai dit, mais les Arabes, ils avaient soumis les Berbères et les Diyos. Dans l'armée de Charles Martel, il y a des Diyos chrétiens, il y a des Berbères, dont certains ne sont peut-être pas très islamisés encore, hein, c'est assez récent leur conquête, et il y a des Arabes musulmans, effectivement. Mais du tout, c'est une armée assez disparate. Et dans l'armée Charles Martel, il a effectivement évangélisé les territoires païens. Vous pensez que tous les païens qui étaient dans son armée avaient été évangélisés? Ils avaient visé les chrétiens, parce que sinon, ça a tout été dans la tête et ça fait pas du bien, mais globalement, il y avait des païens dans l'armée Charles Martel. On en est pratiquement sûr. Donc vous avez un affrontement entre des musulmans, des chrétiens et des païens, et entre face à une armée de chrétiens et de païens. Donc, c'est un peu différent. Et c'est encore pire lors de la siège de Vienne, puisque Louis XIV nous a refusé d'intervenir pour défendre Vienne, parce qu'il est ennemi de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique, et allié à l'Empire ottoman. Ça va même amener à ce que les journaux anglais d'Inès, à ce moment-là, caricaturent Louis XIV en roi très turc de France. Dans cette civilisation, pareil, du coup, la France, c'est dans un espace turc. Je veux bien, hein, mais c'est assez particulier. Donc, il faut vraiment sélectionner ce qu'on veut dedans. Et après, je pense que, outre le cherry picking qu'on a, la sélection des faits, on a aussi un raisonnement circulaire. On postule que ces événements-là sont particulièrement importants par rapport aux autres, pour en arriver à la conclusion que donc ça révèle une lutte particulièrement importante et particulièrement transcendante par rapport aux autres, et que donc ces événements sont particulièrement importants par rapport aux autres. Mais en fait, on n'a rien prouvé. Là encore, c'est assez difficile à dire. Et en vrai, si vous voulez faire une frontière et dire qu'il y a des combats, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et pour enfoncer les clous, vous connaissez le Cid, le héros, la Reconquista. Il était battu pour des princes musulmans. Hein. Ça n'a jamais été étanche une frontière, même religieuse. Alors oui, il y a ses chrétiens, et oui, il est toujours plus à respecter les chrétiens que les musulmans. Mais si ça l'avantageait de combattre pour des musulmans, combattait pour des musulmans. Encore une fois, les intérêts d'État et les intérêts personnels priment souvent sur la religion en fait même si on ne dit pas ça. Alors après, pourquoi ça n'est plus que le fait de bosser à l'école? Parce que je vous dis, ça ne justifie pas ça. Ça reste un événement intéressant. Il y a plusieurs raisons. Déjà, à l'école, on n'a jamais vraiment appris grand-chose de la bataille de Poitiers. Je pense que, voilà, vous savez tous, 732, bataille de Poitiers, Charles Martel arrête les Arabes. Ce n'est pas un cours, quand même. Hein. Même si votre prof est très long pour parler, ce n'est pas un cours. Et le truc, c'est que on ne fait plus d'histoire comme ça aussi. Je veux dire, apprendre les dates par cœur sur une frise, c'est plus qu'un satisfait. Et c'est normal, parce que ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, ce n'est pas plein de dates qui s'additionnent. C'est des sociétés, c'est une évolution longue ou pas longue, selon les cas. Et si on veut comprendre, et si on veut que les enfants comprennent, c'est plutôt ça. Donc, ce qui remplace la bataille de Poitiers, c'est l'étude de la vie au Moyen-Âge. Pour comprendre, c'est plus intéressant de comprendre la société médiévale que de comprendre que Charles Martel a tapé sur les Arabes. Enfin, c'est, ok, c'est bien, mais. Et. Donc, c'est ça aussi, c'est pour ça que tous ces grands personnages, on les enseigne moins, de les grandes batailles, on les enseigne moins. Parce que c'est pas si intéressant ça. Juste pour vous donner un exemple, alors c'est une expérience personnelle, hein. J'ai fait un master d'histoire médiévale. J'ai jamais révisé mes dates pendant 5 ans. Parce qu'on s'en moque. On commence à en connaître par cœur, mais ce qui est important, c'est pas ça. C'est de comprendre la société, c'est de comprendre l'évolution, c'est de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Savoir que ce qui se produit en 732, si en 733, ça change quoi? Si en 735, ça change quoi? On pourrait le comprendre si vraiment on est un des amis de la société, mais apprendre par cœur, c'est pas si intéressant que ça. Et ce qu'on veut, c'est que les enfants aient des bases pour faire de l'histoire plus tard et comprendre l'histoire. Voilà. Et une autre anecdote, hein, j'ai appris pendant mon collège, par cœur, Maastricht 1893. J'ai appris que c'était Maastricht, j'ai traité Maastricht. J'avais fini mon lycée. Et enfin, oui, dernier point quand même. Imaginons qu'on enseigne Poitiers. On enseigne dans quel cours? Parce que je vous dis, ce n'est pas un cours entier. On enseigne dans un cours sur la fin essentielle de l'Empire musulman. Les détracteurs qui sont en Poitiers, ils trouvent déjà qu'on enseigne trop sur le monde musulman. Hein. Globalement, ils voudraient qu'on parle plus de la France. Bon. On enseigne dans les luttes de pouvoir de la socratie franque à l'époque des derniers mérovingiens. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant pour nos enfants, et je pense qu'ils vont être perdus. Hein. Dans l'histoire militaire, alors. Pareil, je ne sais pas si c'est aussi pas la fin aux enfants. Donc au final, c'est aussi ça, c'est qu'on a arrêté Poitiers parce que on n'avait nulle part où le mettre. Donc, si on a nulle part où le mettre, c'est pas intéressant d'en parler, on n'en parle pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler dans d'autres contextes, mais à l'école, c'était pas le lieu. Après, il y a une caractéristique que je trouve assez intéressante de ces idées, et qui se retrouve dans pas mal de théories farfelues de l'histoire. Une d'entre elles, c'est les gens nous donnent et nous n'arrivent pas à nous dire qu'on se trompe, qu'on ne voit pas les trucs. Ils citent pas de source. Moi, je suis embêté parce que je suis prêt à accepter n'importe quelle théorie qui soit revenue sur l'histoire. Hein. Mais un historien, ça travaille sur un matériau, c'est les sources. Et qu'ils aient une façon différente des sources, moi je veux bien, mais il faut qu'ils la donnent, il faut qu'ils expliquent pourquoi. Qu'ils aient une nouvelle source, moi je veux bien, il faut qu'ils les donnent, il faut qu'ils disent où elles sont. Et après, ils n'en ont pas. Ils citent des auteurs, ils citent leur mémoire, ils citent leur conviction. Et ça, c'est pas des preuves. Et qu'est-ce qu'en fait, à part les trois sources que j'ai données, il n'y en a pas d'autres. Et qu'elles disent pas ce qu'ils veulent qu'elles disent. En fait, il y en a d'autres plus tardifs qui ont dit ça, mais c'est des auteurs du 20e siècle. Ils n'avaient pas plus de raison de savoir que nous, c'était Poitiers. La manière dont s'est défendu Laurent Deutsch, par exemple, c'est de dire oui, mais ce que je dis, c'est pas faux. Les historiens qui m'attachent sont des historiens trotskistes. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait autant de trotskistes que ça en France. En fait. Tous les historiens l'ont attaqué. Mais en plus, il a dit, mais moi, mon historien, c'est une autorité du XXe siècle. Alors, déjà, c'est une autorité, c'est un mec qui a vendu beaucoup de livres, c'est un journaliste, avant tout, et c'était un militant de l'Action française. Et surtout, c'était en 1920. On a un petit peu progressé en histoire depuis. Et encore une fois, c'est pas une preuve, il faudrait voir quels sont les arguments de cet homme-là. Et cet homme-là, c'est juste... Pareil, il prend les sources qu'on a au départ pour parler de la bataille, et après il extrapole. Mais l'extrapolation, elle est basée sur du vent. Une autre chose qui est intéressante avec la manière dont on parle de Poitiers maintenant, c'est, je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, mais jusque là, on parlait de Poitiers très peu, mais quand on parlait, c'était plutôt conquérant. C'était pour assimiler les Arabes. C'était pour dire qu'on allait chasser les Juifs. Là, il y a une peur qui s'est faite. Il y a un repli sur soi qui est en lieu. Où vraiment c'est plus la victoire comme de la liberté et de la patrie de Briand, c'est juste on est attaqué, on est envahi, et il faut qu'on réagisse parce que là on va se faire bouffer. Donc, il y a une peur de l'extrême droite, voilà, qui a toujours été à vouloir voir les ennemis qui allaient l'envahir, hein, c'est un peu leur fond de commerce, mais qui je trouve assez effrayant qu'elle marche autant dans la population. Parce que je vous l'ai dit, mais celui de Poitiers, il vient, il revient, et on m'en parle, et on me demande pourquoi on n'enseigne pas. Alors qu'en fait, en vrai, il n'y a pas de raison de m'enseigner. Hein, donc voilà. Et enfin, juste pour dire, c'est qu'on utilise ce mythe plutôt comme un prétexte, en vrai. Parce que même eux, ils n'en disent rien. J'ai remarqué avec les Arabes, point. Ils n'en disent pas plus, eux-mêmes. Alors, il a sauvé l'Europe, il a sauvé la chrétienté, il a sauvé le monde, si vous voulez. Mais sur la bataille, même, on n'en dit pas grand-chose. C'est juste un prétexte pour dire, on l'a déjà fait, c'est déjà arrivé, il faut le refaire. Sauf que l'histoire décrit le monde passé. Elle ne dit pas comment on doit faire aujourd'hui. Ce n'est pas son rôle. On aurait bien du mal à le faire. Je vais conclure et je vais revenir à cette critique faite par l'extrême droite. C'est totalement normal de critiquer les programmes. Tous les programmes d'histoire sont critiquables. Tous partent de différents principes et éventuellement convictions. Et c'est quelque chose d'éminemment politique. Qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on n'enseigne pas, c'est débattable. J'ai des critiques à faire sur le programme. Tout le monde en a. Personne ne dit que le programme est parfait. Par contre, critiquer le fait qu'on n'enseigne plus Poitiers et vouloir l'enseigner comme ça, ça pose des problèmes. Parce qu'on ne part pas sur les sources et sur les faits. Moi, je veux bien qu'on critique les programmes. Ça serait bien qu'on enseigne quand même l'histoire qu'on pense qu'elle a pu avoir lieu. Pas l'histoire qu'on aurait aimé qu'elle ait eu lieu. Ensuite, les critiques, elles montrent qu'ils n'ont pas suivi l'évolution de la manière dont on fait l'histoire depuis les annales. Les annales de 1929, quand même, le début. Ils ont un petit peu de retard. Parce que arrêter de faire l'histoire des batailles, l'histoire seulement des grands hommes et tout. Les historiens, c'est les années comme ça. Et ça fait depuis au moins la fin des années 50 et les années 60, les historiens demandent qu'on arrête de faire ça dans les programmes. Parce que ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça qu'on apprend l'histoire. Alors, on peut avoir des bases, parce que c'est pratique pour retenir des choses, parce que c'est un peu narratif et ça peut intéresser les enfants. Mais il faut pas faire que ça. Donc après, il y a des débats pour savoir quelle place on laisse au roman national, quelle place on laisse au roman européen. Ça, c'est intéressant. Mais vouloir refaire de l'histoire bataille comme on en faisait avant, c'est quelque chose que personne ne défend. Ni les pédagogues, ni les historiens. C'est les seuls qui défendent ça, c'est les idéologues. Et pour finir, je reviens que j'ai beaucoup tapé sur l'extrême droite et sur la droite, parce que leurs idées ont le vent en poupe, en fait, et que c'est assez embêtant. Mais toutes les idéologies ont leur mythe historique, et toutes manipulent les choses. Donc, juste pour dire, j'ai tapé sur ce mythe-là, il y en a plein d'autres sur lesquels on pourrait taper. Le truc, c'est que je pense qu'il est important, c'est de se baser sur les faits, sur les sources qu'on a, et sur les connaissances qu'on a pour faire le programme, et pour cliquer aussi, c'est important de comprendre pourquoi le programme a changé. Ça veut pas dire qu'il faut être d'accord avec ce changement. Et si on ne comprend même pas pourquoi il a changé, ça ne vaut pas le coup de cliquer. Merci.